Lizzie présente La femme à la fenêtre de A.J. Finn. Lu par Gaëlle Savary. Pour George. J'ai le sentiment que quelque part en toi, il y a quelque chose que tout le monde ignore. L'ombre d'un doute, 1943. Dimanche 24 octobre. Chapitre 1. Son mari ne va plus tarder. Ce coup-ci, c'est sûr. Il va la surprendre. Il n'y a ni rideau ni store au 212. La maison de ville couleur rouille qu'habitaient les Mottes, de jeunes mariés, il n'y a encore pas si longtemps, jusqu'à ce qu'ils défassent les liens du mariage. Je ne les ai jamais rencontrés. Mais de temps à autre, je jette un coup d'œil au profil du mari sur LinkedIn et à la page Facebook de la femme. Leur liste de mariage est toujours chez Macy's. Si je voulais, je pourrais leur acheter une ménagère. Bref, comme je le disais, les fenêtres du 212 sont dépourvues de tout ornement. La demeure, située en face de la mienne, semble poser sur moi un regard vide et, alors que je la contemple en retour, je vois la maîtresse de séance guider son artisan vers la chambre d'amis. Qu'a-t-elle de si spécial, cette maison, pour que l'amour y meure à coup sûr? La femme est ravissante. Une vraie rousse, aux yeux verts émeraudes et au dos parsemé de minuscules grains de beauté. Beaucoup plus attirante en tout cas que son mari, John Miller, psychothérapeute. Oui, il reçoit des couples en difficulté. Et l'un des 436 000 John Miller qu'on peut recenser sur Internet. Ce représentant particulier de l'espèce travaille près de Gramercy Park et n'accepte que les paiements en liquide. D'après l'acte de vente publié en ligne, il aurait payé cette propriété 3,6 millions de dollars. Son cabinet doit bien tourner. J'en sais à la fois plus et moins sur elle. Il me paraît clair qu'elle ne s'intéresse pas à la décoration intérieure. Les Miller ont emménagé il y a déjà 8 semaines. Pourtant, leurs fenêtres sont toujours nues. Elle va à son cours de yoga 3 fois par semaine, dévale les marches avec son tapis magique roulé sous le bras, les jambes gainées d'un legging Lululemon. Mais elle doit faire du bénévolat quelque part, car elle sort un peu après 11h le lundi et le vendredi matin, au moment où je me lève, et revient vers 5h ou 5h30 de l'après-midi, quand je me mets devant la télé pour mon film du soir. Choix d'aujourd'hui, l'homme qui en savait trop, pour la énième fois. Moi, je suis la femme qui en a trop vu. J'ai remarqué qu'elle aimait bien boire un verre dans l'après-midi, comme moi. Est-ce qu'elle s'en sert également un le matin, comme moi? Son âge reste un mystère, même si elle est assurément plus jeune que son psychothérapeute de mari et sans doute plus jeune que moi, plus souple aussi. Je n'ai aucune idée non plus de son prénom. Je l'ai baptisée Rita, comme Rita Hayworth dans Gilda. Je ne suis pas le moins du monde intéressée. J'adore cette réplique. Intéressée, moi, je le suis. Beaucoup. Pas par son corps. Chaque fois que j'aperçois dans le viseur de mon appareil photo la ligne pâle de sa colonne vertébrale, ses omoplates saillantes, pareilles à 2 moignons d'ailes ou le soutien-gorge bleu pastel emprisonnant ses seins, je détourne les yeux. Mais par la façon dont elle mène sa vie. Ses vies, plus exactement. Elle en a 2 de plus que moi. Son mari a débouché au coin de la rue il y a quelques minutes, peu après midi. Il n'y avait pas longtemps que sa femme avait refermé la porte d'entrée sur elle. Et l'artisan. Ce retour impromptu relève de l'anomalie. Le dimanche, M. Miller revient toujours chez lui à 3h15. Il est réglé comme une horloge. Pourtant, c'est bien lui qui avance sur le trottoir, soufflant par la bouche, sa mallette se balançant au bout de son bras, son alliance scintillant au soleil. Je zoome sur ses pieds. Mocassins couleur sang de bœuf. Impeccablement cirés, brillant dans la lumière automnale. J'oriente le viseur vers sa tête. Mon Nikon D5500, équipée d'une lentille Opteka, ne rate pas grand-chose. Tignasse grisonnante en bataille, fine lunette bon marché, îlot de barbe naissante dans le creux de ses joues. Il apporte indéniablement plus de soin à ses chaussures qu'à son apparence. Retour au 212, où Rita et l'artisan sont en train de se dévêtir en toute hâte. Je pourrais appeler les renseignements, téléphoner chez elle et la prévenir. Je ne le ferai pas. Observer les autres, c'est comme tourner un documentaire animalier. On ne se mêle pas de la vie des bêtes. Monsieur Miller n'est peut-être plus qu'à 30 secondes de la porte. La bouche de sa femme se pose dans le cou de l'artisan. Son chemisier s'envole. Encore 4 pas. 5, 6, 7. 20 secondes à présent, maximum. Elle saisit entre ses dents la cravate de son amant, lui sourit. Ses mains s'activent sur les boutons de la chemise qu'il porte encore, tandis qu'il lui mordit l'oreille. John Miller saute par-dessus une dalle du trottoir descellé. 15 secondes. Je peux presque entendre le bruissement de la cravate qui glisse sur le col de l'artisan avant que Rita la fasse voltiger dans la chambre. 10 secondes. Je zoome de nouveau, avec l'impression de sentir l'objectif de l'appareil frémir sous mes doigts. La main de Monsieur Miller s'enfonce dans sa poche, en sort un trousseau de clés. 7 secondes. Elle défait sa queue de cheval, laisse cascader ses cheveux sur ses épaules. 3 secondes. Son mari gravit les marches du perron. Elle enlace l'artisan et l'embrasse à pleine bouche. John Miller insère la clé dans la serrure, la tourne. Je zoome sur le visage de Rita, dont les yeux s'arrondissent brusquement. Elle a entendu. Je prends une photo. Au même moment, la mallette du mari s'ouvre. Une épaisse liasse de documents en jaillit et se disperse au vent. Je braque l'appareil sur Monsieur Miller, sur ses lèvres qui s'avancent pour former un « flûte ». Il pose la mallette sur le perron, bloque plusieurs feuilles sous ses chaussures lustrées, ramasse les autres par brassées. Une page plus aventureuse est allée se coincer dans les racines d'un arbre. Il ne la remarque pas. Retour sur Rita, qui passe prestement les bras dans les manches de son chemisier, puis rejette ses cheveux en arrière et s'élance hors de la pièce. L'artisan abandonné saute du lit, récupère sa cravate et la fourre dans sa poche. L'air s'échappe de ma bouche comme d'un ballon qui se dégonfle. Je ne m'étais pas rendu compte que je retenais mon souffle. La porte d'entrée s'ouvre et Rita descend les marches en appelant son mari. Il se retourne. Sans doute lui sourit-il, je ne sais pas, je ne vois plus son visage. Elle se penche, récupère plusieurs papiers sur le trottoir. L'artisan apparaît sur le seuil, une main dans sa poche, l'autre levée en signe de salut. John Miller agite la sienne en retour. Il remonte les marches, saisit sa mallette et les deux hommes échangent une poignée de main. Ils entrent, suivis par Rita. Bah, tant pis, la prochaine fois peut-être.